Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Et bonjour, bonjour, c'est Capture Mag Hebdo, et on est déjà fin janvier, et avec une actualité cinéma un petit peu morose, alors on va pas mal parler de vidéos et de sorties DVD, avec mes amis de Capture Mag autour de cette table, avec Rafik, bonjour Rafik.
Salut.
Avec Stéphane, bonsoir Stéphane.
Salut David.
Et avec Arnaud Bordin.
Salut David.
Il est là, il est en forme, il pète
le feu. Il est revenu des Bermudes.
Voilà. Et il a remplacé au pied levé Julien qui est occupé, très fatigué, donc on l'embrasse.
Mais en fait, on est la même personne avec Julien et on se switch à chaque émission. Quoi.
Tout à fait. Le blond et le brun.
Voilà. On a bien compris. La barbe, légèrement poivre et sel.
Je suis bien grimé. Hein.
Ouais, non, t'es bien. Bon, alors aujourd'hui, on va vous parler d'un jour dans la vie de Billy Lynn, le nouveau film de Ang Lee qui sort le 1er février. On va vous parler de Kubo et l'armure magique en sortie Blu-ray DVD chez Universal et d'une autre sortie Blu-ray DVD chez Wildside du film Comancheria. Voilà, ça me paraît être un excellent programme pour cet hebdo.
Que tu dis.
Oui. Et on va commencer tout de suite par... je me tourne vers Arnaud, hein, puisque t'es là autant que tu parles. Et parle-nous donc de Un jour dans la vie de Billy Lynn, le nouveau film de Ang Lee, qui sort donc le 1er février, et que tu as vu, je crois, Arnaud. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Tout à fait. Alors donc, effectivement, c'est le tout nouveau film d'Ang Lee. Alors on va pitcher un petit peu l'histoire quand même. Donc c'est un film tiré d'un roman. C'est un film tiré d'un roman déjà. Et donc ça raconte l'histoire en 2004 d'un jeune soldat américain qui revient du front irakien avec son peloton ou son commando, là, je sais pas trop comment on dit, son escouade. Ils reviennent dans le village dont ils sont, la petite ville dont ils sont originaires. Et les attend une journée, une soirée de célébration de leur retour au pays, qui doit culminer avec un show à l'américaine dans un stade de foot avec match de football, concert des Destiny's Child, tout ça.
Parce que Billy Lynn est un héros. Il revient en héros.
Voilà, alors effectivement, mais j'allais y venir en fait parce que le récit donc nous montre cette journée et cette soirée. Et nous montre en même temps, par l'intermédiaire de flashbacks qui interviennent ponctuellement dans la narration, d'où revient ce jeune homme et ses amis soldats, ce qu'ils ont vécu sur le front irakien et les traumatismes qu'ils en ont ramenés. Quoi. Voilà. Donc c'est un film effectivement sur la guerre qui aborde surtout l'après-guerre, ce qu'on appelle le syndrome de post-traumatique des soldats,
ah oui.
Qui aborde aussi la perception des civils restés au pays, qui aborde aussi le traitement des politiques, comment ils récupèrent tout ça pour en faire un show médiatique qui puisse servir leur politique de guerre à l'étranger. Voilà, et donc tout ça à travers les yeux de ce jeune homme. Le film est très axé justement sur son point de vue, et donc forcément c'est un projet qui, selon son réalisateur Ang Lee, appelait un point de vue très immersif. Et donc c'est c'était le grand intérêt de ce film, c'était d'être tourné en 3D.
Ah oui.
En 3D relief et surtout en 120 images secondes,
D'accord,
4K.
Voilà.
En 4K et en HDR.
Voilà. Contrairement au.
Donc... c'est de l'HDR ou c'est au-delà de ça? Parce que 120 images secondes, c'est au-delà de l'HDR.
Pas HFR, HDR.
C'est le nouveau format, d'accord.
Comment on appelle ça? C'est le traitement d'image qui permet, d'avoir des noirs beaucoup plus profonds,
d'accord.
Des luminosités beaucoup plus
profondes. Ah oui, c'est le traitement d'image qui donne une colorimétrie particulière.
Tout à fait. Ça, cumulé avec le. En gros, ce qu'ils ont fait, ils ont pris tous les amplis qu'ils avaient, ils ont mis tout à 11, tout à fond. Non mais vraiment, c'était le but, c'était de pousser au maximum tous les curseurs technologiques que le cinéma utilise actuellement pour donner une expérience d'hyper-réalité.
Voilà, d'hyper-réalité.
Tu as interviewé Douglas Trumbull récemment dans un Beat, si je me souviens bien. Et tu as parlé de ces nouvelles technologies de tournage et de diffusion. Il en parle, Douglas Trumbull.
Et il parle aussi de la résistance du public et des critiques par rapport à ces formats-là et de la façon éventuelle de les contourner. Mais avant même qu'on puisse voir Billy Lynn, il y avait eu des projections qui avaient été faites de quelques séquences à la presse américaine. Et les retours étaient absolument catastrophiques.
Le film entier a été présenté comme
non,
ça.
Non, mais même avant, il y avait eu juste une séquence.
Alors, ouais. Ça, c'était la réception par la presse. Avant, moi, j'avais vu passer quelques retours de gens du milieu qui abordaient ça de manière un peu plus dépassionnée, je trouve, et qui parlaient d'impression justement d'hyper-réalité. Je voulais en venir là. C'est que justement, cette impression d'hyper-réalité, ce qui est très gênant, parce qu'on va le dire directement, là maintenant, le film ne sera pas diffusé comme ça en France, dans les salles. On va le voir en 2D, en 24 images par seconde. Il n'y aura même pas de 3D.
Ah, même pas de 3D
et 2K.
Voilà.
Donc, oui, 2K, 4K, après, ça ne change pas énormément de choses.
Et c'est comme ça que le film a été projeté à la presse.
D'accord.
En 2K, en 24 images.
Ce qui est logique, si c'est diffusé comme ça en France, vaut mieux pas le montrer autrement.
C'est arrivé, il y a eu des exemples de films qui ont été exploités, qu'on nous a montrés dans leur version originale, on va dire, et qui ont été exploités après.
Le souci, en fait, la raison pour laquelle on ne le montre pas, c'est la résistance dont parlait Rafik et dont parle Douglas Trumbull dans son émission. Le souci, c'est que.
Et l'exploitation. Voilà. Le fait qu'il n'y a pas de salle qui puisse le diffuser dans toutes les conditions requises.
Voilà. Et donc, du coup, le problème, c'est que tu vas montrer le film de cette manière. Là, ce qui est le projet de mise en scène global du film, c'est-à-dire dans lui, parce que quand il parle de logique d'immersion, il y a aussi que il y a en fait l'idée de s'immerger dans la peau de Billy Lynn, c'est d'où le titre du film, c'est une logique de choix cornélien, c'est-à-dire que le personnage rentre au pays et se demande en fait s'il doit retourner à la guerre ou pas, et il est tiraillé en fait entre les raisons que chaque personne lui avance, ce que le sens du devoir lui l'appelle, enfin toutes ces choses là et du coup en fait tout ça, ce sentiment d'hyper-réalité, ce sentiment d'immersion, c'est la volonté en fait de nous mettre vraiment dans la peau du personnage, et le retour qui a eu lieu. Enfin, une fois que nous, maintenant qu'on a vu le film, on va un peu en parler en tant que film en soi.
Ouais.
À mon avis, le vrai souci, en fait, de la presse américaine qui a pu le voir le film en entier pour le coup, et qui.
Dans les conditions dont il était
dans les conditions requises, exactement, voilà. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'Ang Lee, c'est quand même un grand cinéaste oscarisé. Donc c'est un type qui pouvait se permettre de faire ce genre de projet.
Même s'il a eu une légère traversée du désert, parce que depuis l'Odyssée de Pi, il n'avait rien fait depuis 2012.
Il n'a rien fait, mais il a eu l'Oscar.
D'accord.
Donc le truc, c'est qu'en fait, son projet suivant, en fait, même s'il a mis 4 ans pour le faire, c'était le projet où il pouvait absolument faire ce qu'il voulait. Et ce qu'il a voulu faire, c'est ça, c'est-à-dire pousser le cinéma jusqu'à son paroxysme, on va dire. Et le truc, en tout cas, l'immersion au cinéma jusqu'à son paroxysme. Et l'idée, c'est qu'à mon avis, le vrai problème, moi je l'ai vu avec Julien qui donc n'est pas là ce soir, et on a eu exactement la même réflexion quand on est sorti du film. On s'est dit, le vrai problème, à mon avis, à notre avis en fait, sur le film, n'est pas un problème technologique, à savoir qu'on n'est pas prêt à voir les films de cette manière-là, mais plutôt un problème idéologique. Car comme le film justement nous demande de nous plonger dans la peau du personnage et que le personnage a ce choix cornélien à faire et que les flashbacks le renvoient dans des situations de guerre très tendues, et pas que des situations de guerre, hein, la scène dont tu parlais tout à l'heure, tu parlais de la scène chez Destiny's Child, en fait le moment où il y a tout le syndrome justement post-traumatique qui se remet en place parce qu'ils sont au milieu des feux d'artifice et ce genre de choses et qu'ils commencent à avoir des gros coups de stress, c'est un truc que toi en tant que spectateur, déjà en 2D, déjà en 2K, déjà en 24 images secondes, tu ressens à travers la mise en scène. Donc à mon avis... La logique d'immersion, si elle est vraiment efficace et si elle est vraiment fonctionnelle, et ça on le verra quand on aura vu le film comme ça, c'est à mon avis ce qui pose problème aux spectateurs qui ont pu le voir aux États-Unis de cette manière-là. En tout cas, ceux qui ont critiqué le procédé. Et mais je parle de ça, mais je veux pas spoiler. Il y a d'autres trucs en fait qui sont des actes violents qui sont aussi très immersifs et filmés de cette manière-là.
Il faut préciser justement que ce qui est très gênant dans la version qu'on nous a projetée, donc, voilà. C'est que par exemple, on peut éventuellement voir un film 3D en 2D. Un petit film d'horreur avec des effets de jaillissement, bon, ça sera pas bien dommageable si on le voit en 2D, on pourra tout autant apprécier le film. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire, toute cette technologie qu'il a utilisée, Anglis, elle a poussé à remettre en question sa mise en scène et à caler sa mise en scène sur, sur les possibilités que lui offrait cette technologie. Par exemple,
c'est comme si on voyait
film,
Avatar en 2D, voilà, alors que Cameron a réfléchi toute sa mise en scène.
Ouais, mais là, c'est encore à la limite encore plus voyant, parce que y a une mise en scène qui n'est pas habituelle. C'est-à-dire, par exemple, pendant tout le film, il y a énormément de regards face caméra, où les personnages, c'est un champ contre champ, où ils sont en train de s'adresser à un autre personnage, mais où ils regardent la caméra, passez-moi l'expression, entre le blanc des yeux, dans le blanc des yeux, quoi, vraiment. Et ça, c'est un procédé qui est utilisé.
Avec des vraies amorces, hein, la main, en fait, le bras de la personne qui tient l'épaule de Billy Lynn, qui est dans le champ, en fait, pour vraiment, en fait, nous mettre dans on est à la place de Billy Lynn.
Ouais, il y a même un moment, on voit comme ça l'amorce du bras de Vin Diesel, on a presque l'impression qu'il est en train de prendre un selfie, là, pour.
Voilà, et le truc, c'est que cette immersion-là, c'est tout le projet de mise en scène, en fait, sert cette immersion-là, quoi. C'est ça le souci. Et l'autre truc, moi, là où aussi il y a une logique de, j'ai envie de dire, downgradé, en fait, quand on regarde le film de manière. Enfin, il est pas upgradé, il est downgradé, quoi, en inverse, c'est que il y a aussi les limites, les pures limites technologiques. C'est-à-dire que un simple panneau qui est relativement fluide quand tu le regardes, quand le film a été tourné en 2K et pas downgradé, tu vois, et ben là, en fait, un simple panneau devient hyper tramé à l'écran, alors que c'est juste des mecs qui font des tours de piste, quoi, tu vois, et la caméra qui les suit, qui fait pas un mouvement de caméra hyper sophistiqué, qui fait juste un mouvement de caméra simple, mais qui est complètement downgradé. Et tu vois, du coup, les saccades, tu vois les limites, tu vois vraiment les limites de la technologie par rapport au plan de mise en scène, en fait, d'Angly. Donc c'est vraiment dommage de présenter le film de cette manière-là. J'ai cru comprendre que le film sort aux États-Unis en Blu-ray 4K HDR 60 images secondes. Donc pour ceux qui sont équipés avec le bon équipement, mais il faut l'avoir, hein, c'est quand même une somme à lâcher. Il y aura moyen de voir le film, alors, de cette manière-là,
oui,
et en 3D me semble-t-il aussi.
Mais non, parce que alors c'est tout le problème du format Blu-ray 4K.
Ah d'accord,
c'est qu'il y a pas de 3D.
D'accord, alors d'autant pour moi.
Donc soit tu le regardes en 2K 3D, soit tu le regardes en 4K 2D. Et alors c'est un peu le paradoxe de ce format 4K pour le Blu-ray, c'est qu'il est pas, il n'y a que de la nouveauté qui sort. Mais il n'y a pas de 3D parce que le 4K Blu-ray, enfin le système, n'est pas prévu pour la 3D. C'est quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas un seul. Ça, on peut faire juste une toute petite parenthèse. Il
n'y
a pas du tout de films patrimoniaux ou de grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma pour l'instant qui sortent remasterisés en 4K parce que les éditeurs n'ont pas la volonté de le faire. Et donc il n'y a que de la nouveauté. Et c'est marrant, ce format n'est pas adapté à la 3D, n'est pas prévu pour la 3D. Donc le Blu-ray 3D reste le Blu-ray 3D en 2K, enfin dans sa résolution classique. Et je sais pas comment se débrouillent les vidéoprojecteurs 4K, s'il y a de l'upgrade. Enfin, j'avoue que j'ai pas.
J'aurais
demandé à Pepe Garcia, mon copain fan de technologie que je suis sur Twitter. Lui, il serait capable. Il avait démêlé un peu toute cette écheveau de Blu-ray 4K et un peu on va pas dire l'arnaque, mais un peu le discours marketing très flamboyant des fabricants. Et qui au final c'est peut-être un peu décevant. Je pense que la meilleure façon de voir le film d'Angly c'est de la façon dont il l'a imaginé, mais malheureusement
bien sûr,
en France,
bien sûr,
on n'aura pas cette chance.
Voilà.
Quoi.
Le truc aussi c'est que après maintenant, bon, une fois qu'on a parlé de toutes ces problématiques de technologie qui sont aussi des problématiques de mise en scène, en l'occurrence dans ce cas spécifique, très spécifique, parce que c'est encore une fois quelque chose qui a été pensé de cette manière-là, il reste donc ce film que quelque part, nous deux, Arnaud et moi, puisqu'on l'a vu, je crois que Rafik ne l'a pas vu, mais on considère avoir vu à moitié. Mais en tout cas, clairement diminué. Mais il y a un vrai. C'est assez formidable, hein. C'est un film assez formidable quand même. C'est un film à voir en
soi.
Oui,
c'est
voilà.
Ça.
C'est un bon film. Non, mais c'est un vrai bon film. Et c'est un vrai bon film qui soutient toutes les tentatives, en fait, malgré tout, de mise en scène qui ont été mises en place. Pour peu que t'acceptes en fait cette logique d'immersion.
Il a pas fait beaucoup d'erreurs dans sa carrière anglaise. Hein,
moi, je pense qu'il en a fait beaucoup à une époque, mais moi, le truc, c'est que
moi, j'ai tendance à penser que justement la découverte des nouvelles technologies, de la 3D, l'Odyssée de Pi, c'était une vraie révélation.
Ah ouais.
Et je pense que ça a été une révélation. Hein. Il s'est révélé à lui-même à travers ça. Ça l'a libéré totalement. Quoi.
De tous les films 3D numériques auxquels on a eu, c'est un de ceux qui pousse le plus loin la recherche formelle, quasiment autant que Scorsese sur Hugo Cabret ou Zemeckis sur Beowulf. Il l'a dit dans l'American Cinematographer, parce qu'il y a eu un gros dossier qui a été fait évidemment sur ce film, parce qu'il existe quand même sur Terre un magazine qui s'intéresse vraiment à la technique du cinéma et qui a relevé l'importance de ce projet. Et Ang Lee explique en détail à quel point effectivement la 3D lui a fait reconsidérer l'intégralité de son métier. Il dit qu'avant il se posait même pas seulement la 3D mais aussi le high frame rate, il se posait pas tellement de questions sur les 24 images secondes, tout ça, ça lui semblait naturel. Mais dès qu'il a testé ces choses-là, il s'est mis à tout réenvisager et surtout à se demander pourquoi, quel était le rapport qu'on avait avec le cinéma, le rapport visuel, le rapport de convention, le rapport de comment on voit la vie de tous les jours et pourquoi on demande au cinéma de nous montrer la vie de tous les jours sous une autre forme, en fait, sous ce format-là. Donc c'est life changing, vraiment, comme le disait Arnaud, pour le réalisateur, c'est déclaré, quoi.
Et il y a, bon, du coup, en fait, voilà, pour conclure un peu sur le film, donc c'est quand même un film, moi, je pense vraiment à voir, vraiment intéressant. C'est un film qui est dans la logique, en fait, de ce que fait aussi Ang Lee de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a une logique de spiritualité. Il y a un petit détail en fait qui est amusant, mais parce que ça faisait moi longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Il y a Vin Diesel dans le film.
Oui.
Et Vin Diesel.
Ah oui.
En
alors
fait,
encore une fois, j'allais y venir. Excuse-moi, Stéphane. Il y a, enfin, comme souvent chez Ang Lee, il y a un casting très surprenant, quoi. Très
Steve Martin, dans un rôle de salopard, quoi, on va dire, d'homme d'affaires un peu rustre et salopard.
Chris Tucker, qu'on n'avait pas vu depuis.
Ouais, qui joue un manager.
Beaucoup d'acteurs venus de la comédie. Hein.
Ouais, ouais, tout à fait. Et qui joue des rôles dramatiques, en l'occurrence. Et il y a donc Vin Diesel qui joue un soldat qui est au centre même de la problématique du personnage de Billy Lynn. Et qui a un fait un peu, enfin, qui repenche vers l'autre versant de sa carrière. Le truc avec Vin Diesel, c'est que bon, Vin Diesel, c'est Fast and Furious, c'est Triple X, c'est le gros beau Faras qui est persuadé de faire toutes ses cascades, et enfin, c'est le Lopez du cinéma d'action, quoi. Pour reprendre une formule de Rafik qui m'avait sorti en antenne une fois, qui m'avait beaucoup fait rire. Et d'un autre côté, il a cette espèce de d'aura mystique. Qu'il joue à travers quelques films, comme dans Le Géant de Fer, comme dans Groot, même dans le personnage de Groot, ça se veut, où il n'est qu'un avec la nature et la spiritualité. Et là, il y a de ça, en fait.
Mais dans
avec...
Pitch Black, moi, j'aime bien. Je l'aime bien.
Pitch Black, ça, au moins, c'est du bon cinéma. Dans l'absolu, quoi. Mais,
parce que tu viens de parler d'un film Marvel, là, Stéphane.
Ouais, voilà. Non, mais le truc, c'est qu'il y a le personnage de Groot, ça, c'est ça. Ça se veut être un personnage qui n'est qu'un avec la nature, qui se veut. Voilà. Et dans ce personnage-là, il y a clairement une référence à, il me semble, Vishnu, je ne dis pas de bêtises, en fait, où il est assimilé à Vishnu, et il est assimilé au totem spirituel du personnage principal. Et il est très bon dans le film, en l'occurrence, Vin Diesel, ce qui fait quand même un choc quand tu as vu juste avant Triple X 3. Et il est même, quelque part, d'une certaine manière, un peu l'âme du film. Et c'est probablement pour ça qu'il a choisi d'accepter le rôle. Et voilà, donc c'est faut quand même le préciser, c'est parce qu'à côté de ça, la plupart du temps, tu le vois, c'est quand même le gros kéké. Mais voilà, donc il suit, il de temps en temps, il arrive aussi encore à se plonger dans le projet d'un metteur en scène. C'est le cas avec le film d'Ang Lee. Et encore une fois, nous ici, on essaye de défendre des metteurs en scène qui ont des projets un peu total de cinéma. On avait déjà plus ou moins évoqué ça avec Bayona à l'époque. Donc nous, on encourage quand même les gens, malgré le fait que c'est voilà. En 2D, en 2K, etc., etc., en 24 images secondes, de voir le nouveau Ang Lee, quoi. Oui, Arnaud.
Alors, je plus sois hein, ce que tu viens de dire, mais j'aurais quand même une petite réserve un peu plus sévère, moi, c'est-à-dire par rapport au fait qu'on voit le film comme ça. Moi, personnellement, je l'ai vécu comme ça. Les effets de mise en scène, justement, dont je parlais tout à l'heure, et qui sont pas naturels, entre guillemets, quoi, auxquels on n'est pas habitué, en tout cas, à cette fréquence-là. Peuvent peut-être créer, en tout cas moi ça a été mon cas, une sorte d'interférence et avoir tendance à vous sortir un petit peu de l'histoire parce que vous les remarquez justement, et où je pense qu'on ne les aurait pas remarqués si on avait vu le film tel qu'on aurait dû le voir initialement. Donc moi je trouve que c'est vraiment dommageable qu'on puisse pas, enfin je pense que tout le monde
c'est, non mais c'est dommageable évidemment, mais après il reste le film que c'est, que comment dire, que
ça en amoindrit l'impact,
ça en amoindrit l'impact clairement, mais il reste quand même un film à mon sens au-dessus de la moyenne de ce qu'on peut voir en salle depuis quelques années. Voilà.
Eh ben, merci beaucoup. Donc, on vous recommande d'aller voir le nouveau film de Ang Lee, qui s'appelle donc Un jour dans la vie de Billy Lynn, même s'il est qu'en 2D. C'est quand même dommage qu'ils aient pas sorti la 3D, même si c'était pas de la HFR.
Bah,
ça, c'est pas une complexité, ouais. On va dire, hein, quand même. Hein.
C'est pas, ouais, mais le truc, c'est que c'est un drame, tu sais. Et le truc, c'est que, en général, les drames, c'est pas, enfin, la 3D, c'est considéré encore aujourd'hui comme un truc de foire. Et du coup, c'est considéré pour les triple X, c'est considéré pour les gros films d'action, les gros blockbusters. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'ils le sortent pas, ils le sortent pas aussi en 2D. Ils se sont dit autant aller jusqu'au bout et le downgrader complètement. Voilà.
Et un dernier petit conseil peut-être pour nos auditeurs qui voudront aller le voir, dépêchez-vous parce qu'a priori le film ne va pas sortir sur un nombre très important de copies. Ça va être à la limite de la sortie technique.
Il faut y aller jour J, quoi.
Ouais.
Auditeur de Capture Mag, tu es prévenu, tu sais comment aller voir et surtout précipite-toi à voir le nouveau Ang Lee. Merci beaucoup, les amis. On passe à la suite. Et la suite s'illustre en musique. J'aime bien démarrer les petites chroniques par un peu d'ambiance musicale. Et donc c'est la musique, la formidable musique de Kubo.
Et l'armure magique.
Et l'armure magique. Un film d'animation. Et un score de Dario Marianelli, Rafik. Alors justement, Rafik, tu as aimé ce film d'animation qui sort en Blu-ray en DVD chez Universal ?
Ah, bon, moi, je suis un petit garçon tout fragile. J'ai pleuré de la séquence d'ouverture de Kubo.
Ah ouais, carrément.
Le film était à peine commencé, j'étais déjà agrippé. Notamment par un effet d'animation que je trouve absolument extraordinaire. Qui est la découverte du héros qui est encore bébé et qui est en train de pleurer sur la plage lorsque sa mère dévoile son visage et la subtilité d'animation de ce visage de bébé a complètement fait remonter toute la fibre paternelle qui peut exister en moi d'emblée, quoi. Donc ça je pense qu'il faut noter et c'est pas la première fois dans les films de ce studio, le soin absolument.
Le studio Laika.
Voilà, le studio Laika, donc à qui on doit
Coraline,
entre autres, qui avait débuté sur Coraline. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué.
Et Paranorman.
Si tu peux reprendre, parce que je suis un peu à la ramasse.
Oui, bah le studio Laika, donc studio spécialisé dans l'animation en volume, comme on dit, ou la stop motion.
Stop
pour les
motion, voilà, image par image, des petites poupées qu'on anime. Voilà, image voilà. Par image.
Et alors, et d'ailleurs, au passage, je vous recommande fortement d'aller voir le making of. De Kubo. Donc sur vous pouvez le trouver facilement
Sur YouTube, ouais.
Même si vous parlez pas anglais, c'est pas grave, mais vous verrez des images qui vont vous faire réaliser la complexité, la minutie du travail démentiel des animateurs du studio Laika.
Ils ont raison, mais ils en sont très fiers, hein, parce que même dans le générique de fin, ils mettent les images de leur making-of. C'est quand même assez rare.
Ouais, bah, c'est-à-dire par exemple, il y a des images que tu vois pendant le film en les voyant, dont comme il y a quelques petites retouches en images de synthèse où tu te doutes pas que c'est carrément du volume. Il y a à la fin, il y a une sorte de démon, enfin de dragon circulaire là qui vole dans l'air et qui est gigantesque, et c'est un truc fait en vrai et à l'échelle en plus. Ouais. Pareil, à un moment il rentre dans une caverne où il y a un squelette gigantesque et c'est un squelette à côté duquel on a la taille d'un de ses doigts, quoi.
Hein? Ah ouais, non,
donc c'est pas des petites poupées dans un petit décor, il y a des petites maquettes, mais des miniatures, mais il y a aussi des gigatures, quoi, des maquettes gigantesques.
C'est formidablement bien fait, ça y est, c'est absolument incontestable depuis leur premier film, en effet, Coraline, puis Paranorman, c'est des gens qui font...
Paranorman, les box trolls,
voilà. J'oubliais, mais c'est vrai que mes filles adorent les box trolls.
C'est un studio qui s'est spécialisé là-dedans, dans un mode d'animation qui est... C'est vrai qu'il y a eu les Tim Burton, il y a eu quelques trucs comme ça, mais c'est pas non plus... On en avait un de loin en loin, ces films en stop motion. Et là, c'est un studio qui s'est véritablement spécialisé là-dedans, et qui est, en l'espace de quelques années, devenu une référence, parce que c'est vrai que disait Raph là sur la gamine au début, il y a plusieurs moments où on est quand même bluffé par l'expressivité de l'animation.
Alors après, on aime ou on n'aime pas l'histoire, mais on va la résumer. Rafi, qu'est-ce que tu veux dire deux mots de cette histoire?
Bah déjà il faut savoir que c'est une histoire originale. Ce qui est assez surprenant parce que le film a vraiment entièrement l'allure d'un conte folklorique.
Tout à fait.
Voilà, qui nous viendrait d'Asie. De très loin, à la fois de géographiquement et dans le temps. Et donc j'étais très surpris.
Il y a une influence entre guillemets bouddhiste dans l'idée, dans l'esprit.
Il y a de toute façon une influence des contes en général et de leur structure, mais d'avoir quand même réussi à créer une œuvre originale et de lui donner cet aspect folk, c'est déjà à mettre à leur crédit. Bah donc l'histoire.
Il y a tout un pan de la culture populaire asiatique. Voilà, on a l'impression qu'ils maîtrisent parfaitement là.
Voilà, ouais, celle d'un jeune garçon qui, avec sa mère, se sont réfugiés sur une petite île. Ce garçon a perdu un œil. Et on découvre qu'il est en fait le fils du dieu de la lune, enfin, en gros, bref, qui a été. Je suis très fatigué ce soir.
C'est pas grave, Rafik.
Voilà. En fait, il est pourchassé par ses tantes qui veulent récupérer son deuxième œil qui doit servir à son oncle.
Oui, c'est ça. Voilà. Bon, c'est une histoire de famille assez glauque.
Sa mère se sacrifie pour le laisser s'échapper.
Il a perdu ses parents.
Il perd sa mère sur cette petite île et il se retrouve accompagné d'une espèce de petit singe qui est en fait le doudou qu'il avait et qui tout d'un coup a pris vie et qui va le guider pour
qu'il devient même son protecteur. Voilà,
pour récupérer les morceaux d'une armure magique dont il va avoir besoin pour pouvoir affronter
qui aurait appartenu à son père, parce que la figure du père est très importante dans le film.
La figure du père qui a disparu, enfin qui est décédé.
Donc voilà en gros la trame. Trame donc effectivement assez classique en trois temps, enfin puisque il y a trois parties de l'armure à trouver, à chaque fois des enjeux spécifiques dans chacun des trucs. Les deux tentes le combat avec les deux tantes signifiant en fait les passages d'un chapitre à l'autre.
C'est les épreuves.
Voilà. Et donc un rapport pas seulement au père mais à la filiation en général, enfin à l'héritage, notamment à travers le shintoïsme japonais, quoi. Voilà. Donc et visuellement, donc c'est
époustouflant.
C'est assez époustouflant.
Ouais, c'est incroyable. Et là, il y a une scène. Je vais rien spoiler, mais il y a un truc qui se passe à un moment sur l'eau et dans l'eau. Et pour moi, c'est la scène la plus incroyable du film. C'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas la fin, mais il y a des moments de bravoure visuelle absolument renversante. Quoi.
Et ils ont réussi à donner à l'animation en volume un caractère étonnamment dessiné par moment, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment parfois... Ils jouent évidemment avec le graphisme japonais, puisque le film se passe sur une île japonaise. Mais on a parfois cette sensation de personnages qui ont été dessinés d'un trait très rapide, alors que ce sont des poupées en volume. Enfin voilà, c'est vraiment un film, je sais pas quoi dire, de plus qu'admirable et surtout chargé d'émotions sincères.
Quel plaisir, en tout cas, récemment. Alors, on parle de Kubo et de sa sortie Blu-ray que je vous recommande. Mais quel plaisir dans l'animation en ce moment, parce que vous avez parlé récemment, Rafik et Stéphane, de la série d'animation de Guillermo del Toro sur Netflix, Chasseur de Trolls.
Troll Hunters,
qui est à mon goût un truc assez génial aussi. Si vous avez la chance d'être abonné à Netflix, ou si vous avez envie de vous abonner à Netflix, voilà une bonne motivation, parce que la
tu revis par là en fait, quoi.
Ah ouais,
après Premier Contact.
Non mais c'est vrai, depuis Premier Contact j'étais un peu déprimé, et là grâce à l'animation, non mais c'est vrai qu'en ce moment l'animation c'est un vrai bonheur.
Bah ça dépend de quel film d'animation on parle. C'est à dire que là on est en train de parler des antidotes, en fait, que ce soit Kubo ou Chasseur de Trolls. Ils arrivent un peu en contrepoint de ce qui marche vraiment, ce qui cartonne vraiment, qui est Sing et autres conneries,
production illumination,
production illumination et post DreamWorks. Qu'est-ce
mais
que
alors,
tous en scène.
La raison aussi pour laquelle, faut le dire, enfin autour de cette table, on est quand même des gros nerds, et la raison pour laquelle on a un penchant naturel pour des Kubo ou pour des chasseurs de trolls, c'est pour leur fibre mythologique, leur façon de
bien
raconter
sûr.
Une histoire au premier degré, etc. Quoi. Et on sera moins client de.
Et
de,
pour le
tu
visuel.
Veux dire que t'es moins attiré par Dancing Queen.
Non mais il y a le visuel.
Cochon qui chante.
Il y a le visuel aussi qui est très fort.
Le visuel et puis l'art du récit aussi. cette idée de nous plonger dans des univers qui sont des univers intérieurs et pas de nous rebalancer dans le quotidien. La plupart de ces trucs d'illumination, enfin, qui sortent en ce moment, ne sont que des jeux autour de
des séries de sketch.
C'est ça, le plus gros carton de l'année dernière. Je dis pas de conneries, hein, vous me corrigerez peut-être. C'est comme des bêtes là. Donc les trucs, c'est des trucs un peu.
C'est abominable.
Moi je l'ai pas vu, mais toi t'as des filles.
C'est une suite de sketch.
Voilà, c'est des films d'animation pour réseaux sociaux en fait. Quoi. Là où ceux dont on parle, des Kubo ou des chasseurs de trolls, c'est des fenêtres ouvertes sur d'autres mondes.
Voilà, et c'est vrai qu'il y a un truc qu'on peut dire aussi supplémentaire sur Kubo et qui moi m'a frappé, parce que c'est finalement, peut-être pas forcément conscience, mais c'est finalement assez rare. C'est un film pour enfants. Que vous pouvez parfaitement emmener vos enfants le voir. Hein,
je l'ai montré à mes enfants.
Ouais, moi j'ai emmené mes deux filles, donc qui ont 6 et 8 ans, elles ont adoré.
Pareil.
Donc, c'est un film qui s'adresse vraiment aux enfants, mais en même temps, qui n'édulcore jamais son propos et qui se permet, enfin je veux dire, Rafik, quand il a résumé le truc, voilà, on voit c'est quand même un petit garçon borgne qui se met à affronter ses tantes.
Dont la mère est quasi amnésique aussi.
Voilà.
Il y a les scènes du début où il prend soin de sa mère.
Où elle est sur son rocher, là.
Parce qu'elle passe ses journées dans une espèce d'état cataleptique, etc., sont effectivement assez durs.
Voilà, quoi. Et c'est vrai que, voilà, avec peut-être certaines grandes scènes de Pixar, finalement, on a pas ça souvent des films qui s'adressent aux enfants. Mais pas en les prenant pour des abrutis, quoi, et qui essaient de leur raconter une histoire avec, et de leur restituer, on va dire, ce qu'ils pourraient approcher de l'expérience humaine, quoi, avec tout ce sens aussi
d'authenticité de l'émotion. Oui.
Voilà, tout à fait.
D'adresser l'émotion réelle que les enfants expriment naturellement devant une fiction.
Ouais. Et puis sans se priver aussi de développer des personnages très complexes. Moi, je sais que je viens de m'en rappeler maintenant, mais parce que je l'ai vu il y a quand même un petit moment là maintenant, Kubo. Mais le personnage, il a deux personnages qui l'accompagnent, le petit garçon, le guerrier là en scarabée, et le singe là. Il y a des scènes avec le singe qui est censé plus ou moins être l'esprit de sa mère, quoi. Mm-hmm. Et donc il y a des scènes de.
Tu en dis beaucoup trop, cher ami.
Bon, c'est pas un méga spoiler, hein, c'est dit dès le départ de leur quête, je crois. Mais il y a des scènes effectivement qui sont très intenses, quoi, dans la confrontation des personnages.
Bon, bah en tout cas, c'est presque disponible, puisque c'est disponible le 31 janvier à la vente. Je vous recommande l'achat du Blu-ray 3D aux alentours de 23€ sur vos revendeurs virtuels ou réels préférés. Je ne citerai pas de marque. Et donc c'est un coup de cœur en tout cas de ma part et de la part de Rafik et d'Arnaud et Stéphane, donc tu n'as plus qu'à aller le voir.
Voilà, il faut que j'aille le voir maintenant.
Très bien.
En Blu-ray 3D.
Exactement. Passons à la dernière partie de ce Capture Mag Hebdo. Et je me tourne vers toi Stéphane justement pour que tu nous parles de Comancheria.
Comancheria, Hell or High Water en anglais, qui vient d'être nominé 4 Oscars.
Quand même.
C'est pas La La Land, hein, c'est pas 14 Oscars, hein. Pardon. Ouais. C'est 4 Oscars. Nomination Oscar. Bon, on parle de la sortie vidéo, donc je pense qu'il y a pas mal de nos auditeurs qui l'ont déjà vu. Et je pense qu'ils ne seront pas vraiment surpris par. Ce petit plébiscite quand même aux Oscars, hein, parce qu'il y a quand même meilleur film, meilleur scénario, évidemment meilleur acteur pour Jeff Bridges, mais ça c'était un peu attendu, et meilleur montage. Le truc c'est qu'ils ne seront pas étonnés, non pas forcément par la qualité du film, parce que ça on peut éventuellement un peu revenir dessus, même si moi j'ai bien aimé, mais par rapport au genre, parce que c'est quand même un polar rural, un western moderne, et c'est quand même très rare de voir ce genre de film aujourd'hui. Plébiscité à la fois par la critique, ce qui a été le cas quand le film est sorti en août-septembre aux États-Unis et en France également, mais aussi parce que voilà, c'est le genre de films en fait qui sont un peu sales, qui sentent la poussière et la sueur, et que en général bah c'est moins bien vu que certains autres catégories dans les films dans les Oscars. Le truc, c'est que par contre, ça se comprend parce que il y a tout un sous-texte en fait dans ce film qui parle de l'Amérique actuelle et qui peut être à la fois un point fort pour le film et aussi, à mon sens, parfois un point faible. Je m'explique. Alors, Je ne dirais pas que, comment dire,
que
Comancheria est un mauvais film, loin de là, hein, bien loin de là. C'est même, moi je le recommande plutôt, c'est plutôt un film qui est bien fait, qui est très divertissant, très agréable à voir, même assez touchant par moments. C'est l'histoire de deux frères en fait qui partent un peu dans une frénésie de braquage en fait parce qu'ils sont fauchés comme
ils sont interprétés par Ben Foster et Chris Pine.
Tout à fait.
Chris Pine qui multiplie les rôles un peu en dehors de son
dehors de Star Trek. Tu
voilà
vois.
C'est ça.
Ouais, bon et en dehors il a quand même encore un truc de leading man en fait de premier rôle fringant d'homme d'action qui est encore là.
Tout à fait. Ouais.
Moi je suis un peu plus impressionné parce qu'on parle assez rarement de lui et pourtant c'est généralement un plutôt bon acteur de Ben Foster.
Oui.
Qui je trouve aussi excellent dans le film. Évidemment, il y a Jeff Bridges qui est formidable. Mais tout ça, c'est le truc, c'est qu'en fait, ils sont tous un peu dans des rails parce que ils ont déjà joué ce genre de rôle en fait. Le Texas Ranger un peu bouseux, Jeff Bridges avec l'accent texan, il le fait régulièrement. Ouais, enfin, en tout cas, peut-être pas le Texas Ranger, mais le texan, ouais. Il le fait régulièrement. Chris Pine, donc c'est l'homme d'action. Et puis Ben Foster, c'est le second rôle fou, quoi. Tu vois, le mec qui joue, qui faisait déjà dans Otage de notre copain Florent Emilio Siri, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a un très grand film. À mon sens, c'est que je recommande. Voilà, j'en profite
pour
une petite aparté pour ceux qui l'ont pas vu. Et moi, c'est là-dedans que j'ai vraiment découvert Ben Foster, en l'occurrence, dans ce type de rôle en plus. Mais donc voilà, là-dessus, c'est un peu sur des rails. Le scénar, c'est Taylor Sheridan, c'est le scénariste de moi, je trouve l'exécrable Sicario de Denis Villeneuve, mais on va pas réouvrir ce dossier. On ne va pas réouvrir ce dossier.
D'ailleurs, ils mettent sur la publicité de la jaquette du Comancheria, ils mettent l'accent sur Sicario, quoi. Donc, comme quoi.
Forcément, c'est un peu le même, ça peut être un cousin proche, on va dire, dans le sens où ça traite un peu de certains thèmes similaires, et puis un background similaire, on va dire. Et le truc, en fait, c'est que, ce qui est intéressant, c'est que, c'est un polar rural à western moderne. Un peu dans la logique de ces films comme avec lesquels peut-être certains d'entre nous ont grandi, en tout cas je sais qu'Arnaud c'est le cas, des films avec par exemple Extrême Préjudice de Walter Hill, qui sont des films coup de trick, quoi, des films qui foncent droit dans l'art et qui se ménagent pas trop de vues, on va dire, politiques très progressistes. Et là, en fait, en l'occurrence, c'est un peu l'inverse avec Comancheria, parce que c'est un film qui traite justement. Alors, c'est très intéressant parce que ça traite de l'Amérique actuelle, c'est-à-dire que ça traite de l'Amérique du milieu, celle dont on a beaucoup entendu parler avec les élections de Trump récemment, celle qui n'a pas vraiment le droit, qui n'a pas eu le droit de citer jusqu'aux élections, on va dire, en tout cas dans les médias. Et qui c'est l'Amérique en fait des pauvres en fait des celles qui est en train de vraiment de jongler, et les deux personnages en fait des deux frangins, parce que c'est de ça je reviens un peu sur l'histoire, c'est deux frangins en fait qui sont sans mauvais jeu de mots fauchés comme les blés, deux frangins bouseux, quoi, qui font une frénésie de braquage en fait pour essayer de racheter la maison familiale, de récupérer la maison familiale. Et le truc, c'est qu'en fait ils sont poursuivis par Jeff Bridges, qui est le Texas Ranger qui leur court après, qui essaye de les retrouver, de savoir qui ils sont exactement en essayant de suivre leur modus operandi, et son adjoint qui est un adjoint mexicain, un Texas Ranger mexicain. C'est déjà un truc qui est un peu en général une nouveauté dans ce type de film, et qui surtout est traité sous cet angle-là, c'est-à-dire que le personnage de Bridges, qui joue un texan raciste, qui plus en vérité un vieux de la vieille en fait, qui a du mal à s'adapter au nouveau monde, passe son temps à insulter en fait son adjoint, passe son temps à le traiter de sale mexicain, de sale machin, etc. Donc il y a tout ce sous-texte en fait qui est permanent, dans le film. Il y a carrément des scènes hein, qui sont écrites autour de ça. T'as une scène par exemple avec une serveuse qui trime à mort et qui en fait refuse, je spoil un tout petit peu, mais refuse de donner les deux frangins parce que l'un d'entre eux a laissé un très bon pourboire. Et c'est toute une scène autour de ça qui est pas une scène politique mais clairement une scène sociale. Voilà, il y a plusieurs scènes comme ça qui du coup tendent à j'ai envie de dire, donner une image du film un peu plus comment dire... En tout cas, à la logique de traiter sous ces éléments-là, en fait, donne une logique d'image un peu plus libérale, un peu plus progressiste, en fait, que ce genre nous a habitués de manière générale. Est-ce que ça plombe le film ? Non, à mon sens. Ça reste un bon polar que je conseille, par exemple, à mon ami Arnaud ici, qui aime bien ce type de polar. Je le préviens toutefois, ok, en bonhomme. Des anciennes valeurs que tu risques d'être...
Ça a l'air un peu fiotte.
Voilà, tu risques d'être un petit peu choqué par certains éléments du film. Il y a deux, trois moments où on a envie de dire c'est quand même pas très finaux, en fait, dans cette démarche-là. C'est quand même le scénariste de Sicario, hein. je le tiens à le rappeler. Voilà. Mais toutefois, c'est quand même assez recommandable. Et puis bon, quelque part, j'ai envie de dire, si les nominations aux Oscars, à mon avis, le film ne raflera rien, mais si les nominations aux Oscars permettent de faire un peu connaître ce genre de film, si. Voilà, bon, bah, ce genre de. En tout cas, de ce genre-là, en l'occurrence, et que ça peut nous permettre d'en avoir d'autres, mais peut-être un peu moins. Comment dire. Coupé à la flotte, voilà, un peu moins de whisky coupé à la flotte, bah peut-être que voilà, ça serait bien de voilà. En tout cas, bon, ça reste recommandable, même si ça c'est une certaine relecture actuelle du genre, voilà, du polar rural, western moderne. Encore une fois, je dis à l'extrême préjudice, à la comment il s'appelle ce
on peut signaler d'ailleurs
ce John Flynn là, qu'on aime tant là tous les deux. Ça y est, j'ai un trou, aide-moi.
Arnaud, ouais. Au secours.
Légitime violence en français, c'est ça ?
Oui.
Rolling Thunder. Voilà, bordel, on va y arriver, tu vois.
Désolé.
Non, mais je suis même pas épaulé par mes amis.
Mais c'est terrible, c'est incroyable, terrible, mon pauvre. Voilà.
J'ai en petite forme là ce soir.
J'ai un coup de flotte qui me passe dans la tête et il y a pas Bordas pour me rattraper.
Et moi qui suis dans le coma là, pour le coup, Rolling Thunder, je l'avais. Mais tu m'as même pas pris en considération.
Mais parce que toi, tu regardes pas ces films-là.
C'est le gauchiste marxiste. On va laisser dans son coin. On va s'adresser à quelqu'un qui aime vraiment les bons films.
Je te conseille Comancheria.
À propos, il fallait appuyer sur le buzzer là.
À propos de Walter Hill, signalons la sortie très prochaine de son nouveau film.
Non, ne la signalons pas.
Revenger avec Michel Rodriguez et Sigourney Weaver, ça a l'air d'être un chef-d'œuvre encore.
Bah écoute, Walter Hill, c'est toujours un peu sympa quand même, merde.
Produit par le nouveau producteur de Paul Verhoeven, Saïd Ben Saïd.
Ah bah alors, écoute, on regardera
moi,
ça.
Moi, c'est Walter Hill, donc j'irai le voir.
Ça arrive. Ouais. Ça arrive très bientôt. Bon, en attendant, commandez Comancheria pour une vingtaine d'euros en Blu-ray. Et un peu moins en DVD sur vos sites préférés
sur tes sites préférés,
sur mes sites préférés.
Je
ne gagne rien, je n'ai pas d'argent chez ces gens-là, c'est dommage.
C'est vrai,
c'est dommage, il faudrait que je prenne des parts. Bref, il est disponible chez Wildchild et c'est une recommandation très chaude de Stéphane Mosiakis qui
moyen chaude, tiède plus.
Ah oui, d'accord, voilà. Ok.
Non, tiède chaude. Voilà.
Et puis, à mon tour de faire un peu de promotion pour les New Max. Alors, vous l'avez peut-être vu passer, vous pleurez déjà le fait que vous n'aurez pas de place pour la nuit Black & Chrome du 4 du début mars.
Événement.
Oui, une nuit où nous passerons le Mad Max de Miller comme Miller voulait le faire, ouais. C'est-à-dire en noir et blanc.
Comme il l'a fait,
donc en Black & Chrome. Et ça sera probablement une des seules projections en France.
Fois. Et suivi de The Mist en noir et blanc.
Et voilà,
aussi,
suivi de The Mist, un choix personnel
et de Sin City en couleur.
Et totalement volontaire.
Et donc, pour la prochaine nuit au max, tu nous passes Billy Lynn à 120 images secondes, c'est ça.
Mais tu rigoles, mais c'est vrai qu'on aurait la possibilité de le passer, de passer Billy Lynn dans la version voulue, puisque maintenant le Max Linder est équipé d'un Christie 4K et donc est sûrement capable de projeter le film dans les conditions dont Anglie.
Voilà, David.
Mission. Un défi. En tout cas, c'est vous qui m'aviez suggéré, enfin c'est Julien qui m'avait suggéré de passer Black & Chrome sur grand écran. Voilà, c'est fait. Malheureusement, nous n'avons que 580 places et elles sont déjà toutes parties. En attendant, si vous voulez vous consoler, je vous recommande la soirée du 4 février.
Si vous passez à 4h du mat, Sin City, il y aura de la place, non?
Il y aura de la place. Ouais. Je te charrie,
bien sûr.
Mais en attendant, tu peux continuer à me charrier, puisqu'il y a une nuit au max qui reste disponible. Il reste des places pour la nuit Underworld. Mais écoutez, si vous n'avez pas vu Underworld...
Alors toi, tu passes quoi dans la nuit Underworld?
Alors, c'est une excellente question. Je ne passe que le 1, le 2 et le 4. Pourquoi?
Donc que du Kate Beckinsale exploitation, quoi.
Exactement. Voilà. D'abord, parce qu'on l'aime bien. Elle est bien.
Non, mais Rona Mitra, elle est mieux.
Non, mais oui, d'accord. Mais en fait, c'était plus logique pour préparer la sortie du nouvel opus de voir ces trois-là qui racontent une histoire en continu.
Alors, tu sais quoi, tu mens, parce que j'ai vu les Underworld, ça ne raconte rien. Non mais littéralement, alors, même celui qui est soi-disant meilleur que tous les autres Underworld 2, ça raconte encore moins de trucs.
Bon, bref, je sens que c'est
dit.
En tout cas, c'est vrai que
Rona Mitra est bien mieux que Kate Beckinsale.
Voilà. Bon,
moi j'aime.
Elle est un peu plus bronzée du cul, quoi.
Bon d'accord. Ouais, ça c'est parce que tu vis dans le sud maintenant.
Ça va la flotte, Arnaud.
Et donc pour terminer là-dessus, c'est quand même la meilleure possibilité de voir Underworld ever, parce que sur l'écran du Max Lander, ça sera une fois et plus jamais. Donc voilà. En tout cas, suivez l'actualité des nuits au Max. Il y a des nouvelles nuits qui arrivent et qui vont être carrément bien. On s'arrête là pour ce podcast hebdo. Hein, il était bien gras, bien chargé, bien charnu.
Il y avait de la fesse bronzée.
C'est ça. Et il y avait du Arnaud Bordas surtout. Il nous manquait, ce Arnaud. Il nous manquait.
Profitez-en parce que je repars tout de suite.
Il reprend son avion. Bon, on se retrouve la semaine prochaine, probablement pour un vrai gros Capture Mag, le numéro 16, je crois. Hein. C'est ça, Stéphane?
Tout à fait. Capture Mag, le podcast, épisode 16.
Et en attendant, n'hésitez pas à aller écouter tout le reste sur capturemag.net, nous suivre sur les réseaux sociaux avec Capture le Mag sur Twitter ou sur Facebook, Capture Mag, bref. Vous savez maintenant parfaitement où nous retrouver.
Arnaud Le Bordas sur Twitter.
Arnaud Le Bordas.
Ne cherchez pas, ça n'existe pas.
Et vous pouvez aussi regarder des beats sur Arte en ligne.
Sur Arte Créative.
Sur Arte Créative.
Dont un qui est passé là, sur les gangsters avec Stéphane Moissakis dans son meilleur rôle.
Ah, formidable.
Dans le rôle de pas de Scarface, mais de l'autre, de Manny.
Dans le rôle de oui, on m'a filmé dans une pizzeria, mais il est hors de question que je me mette de la gomina dans les cheveux.
Certainement pas, ouais.
Bon, tout ça, eh bien, il est beau. Et je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.